conférence privée par le père Philippe, Saint-Joseph, le 19 décembre 84.
Nous aurons donc une prise d'habit très attendue. Le 23... Et en plus, alors, deux qui prendront l'habit aussi ce jour-là, normalement, si l'habit est fait. Parce qu'il faut dire, il y a la cause matérielle qui est toujours là en perspective. Alors on verra ça. Oui, j'ai dit, parce que quand on passe d'une religion à une autre, hein, c'est pas, en fond, on ne peut pas dire que c'est une prise d'habit au sens absolu, parce que on continue. Alors, ça fait des mutations. Je ne sais pas si c'est une mutation substantielle avec une évolution ou si c'est une régression. Ça, je laisse les saints discuter la question. C'est une possibilité de vivre. Nous aurons également, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, vous l'apprenez, parce qu'on ne sait jamais ce qui se sait dans une maison ou dans une autre. Hein. L'ordination de notre cher frère Olivier-Marie. Alors, à la chaise Dieu. Et comme il ne faut jamais laisser un frère seul, selon l'Évangile, il faut toujours être deux à deux. Alors, notre frère Jean-Bernard sera à côté de lui pour recevoir aussi le sacrement du sacerdoce le 2 février à la chaise Dieu. Alors je présume que tout Rimont ira là-bas. Ici, je ne sais pas. Croyez bien que c'est pas parce que je voudrais bien, mais c'est parce que toujours il y a des frais. Toujours. Forcément, ça fait un autocar, il faut le louer. Mais sûrement qu'il y aura une grosse, grosse délégation. Alors, ceux qui voudront partir hein, en faisant du auto-stop la veille, on verra. Une grosse délégation. Pour pouvoir quand même être là-bas. Et puis alors, il y aura des diacres. Hein. Frère Polycarpe, qui attend. Frère Thierry-Marie, qui attend. Puis frère Marie-François-Thérèse, oui, dites-moi. Parce qu'il y en a trois, vous voyez, il y en a trois en un. Marie-François-Thérèse, ça me Je retiens toujours Thérèse, mais ça lui va très bien. Alors on retient le dernier. Il faut prier pour eux, parce que c'est bien qu'il y ait cette grande fête là-bas, la chaise Dieu, par Monseigneur Cornet, puisque c'est lui qui a pris l'initiative. Je lui avais demandé, je connais un peu, je commence à le connaître. Alors, je sais qu'il faut, de temps en temps, mettre un germe d'inspiration. Puis après, se taire. Et puis, trois mois après, ça pousse. Alors, je lui avais dit, vous ne croyez pas qu'il serait bien que frère, notre frère prieur, puisse être ordonné assez vite. Il peut, au point de vue étude, c'est possible. C'est canonique. On peut le faire. Alors, Monseigneur Cornier, oh, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Monseigneur, c'est vous qui êtes juge. J'ai aimé ça, sans du semblant. Puis je me suis tué. Et puis alors, après, il a dit au frère, parce que le frère Marie-Olivier a conquis son cœur. Alors, prenez de la graine. Il a conquis le cœur de son évêque. L'évêque du Puy aime le frère Olivier-Marie. Je crois qu'il peut tout lui demander. tout lui demander. C'est, passant par lui, ça sera merveilleux. Vous verrez, le jour, dites rien. Hein. Mais vous verrez ce jour-là, ça se voit tout de suite, que Monseigneur est merveilleux pour lui, et tout à fait, petites attentions. Alors quand il verra un autre de la communauté des Anges qui est son frère jumeau, je ne sais pas ce qu'il dira, il dira que c'est encore plus merveilleux. On va prier pour ça toujours. Je vous demanderai alors aussi, parce que comme je peux, demain il fallait hésiter entre le noviciat, et je considère que le père Abbé a fait un noviciat ce matin, de sorte qu'il n'y aura pas de réunion de noviciat, il y en aura un cours demain sur Occam, beaucoup moins drôle. Évidemment, mais ça fait rien, ça fait partie des austérités du noviciat. Alors, je demanderai aux frères de la communauté Saint-Jean, après le Salve Regina et la bénédiction, de demeurer ici quelques minutes pour quelques petites précisions du Père Abbé. Parce que, oh, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, mais c'est quand même toujours, il faut visser les écrous. Alors, pour passer au garage et visser les écrous. Mettre un peu d'huile pour que les bielles ne se fondent pas, parce qu'il paraît que ça arrive de temps en temps. Ça. Alors il faut autant que possible faire que tout marche bien. Sauf que je vais faire une brève conférence ce soir, pas trop longue, sur le mystère de Noël, vous comprenez bien. Le mystère de Noël, en regardant comment saint Thomas nous parle des convenances de l'incarnation. Je fais ce cours, vous savez bien, à Rimont. Et alors, ça m'oblige de regarder avec encore plus d'attention cette année-ci, Noël. Et c'est beau de regarder à travers le cœur de Marie et à travers l'intelligence de Thomas d'Aquin. Je crois qu'ils s'entendent bien au ciel. Et ils doivent arriver là, très bien comprendre. Pour Marie, c'était si simple. Une simplicité de sagesse, hein. Pas une simplicité de quelqu'un qui ne sait pas. C'est la simplicité de quelqu'un qui est monté tellement haut, qui a dépassé toutes les discussions. Marie ne discutait pas. Joseph, pendant un certain temps, pendant l'Avent, vous savez bien, il a hésité, il ne savait pas très bien ce qu'il devait faire. Après, il a été déterminé par l'ange, et il est resté le gardien, l'époux de Marie, et celui qui recevrait de Marie son fils, Jésus. C'est très extraordinaire, ça. Je crois que dans la nuit de Noël, il faut beaucoup penser à Saint-Joseph. Parce que nous sommes à Saint-Jodard, il y a Saint-Joseph, on pense beaucoup à Saint-Joseph. Si le Saint-Esprit m'y pousse, je reviendrai la nuit de Noël, n'est-ce pas? Mais on doit y penser. Marie, elle, plus on s'approche de Noël, plus Marie entre dans le silence. Ça, je crois que le silence a progressé pendant tout le temps de l'Avent. Un silence d'amour, un silence d'accueil, un silence de don. Marie ne s'appartient plus du tout. Elle est comme une mère qui attend son enfant, et comme sa maternité est la plus parfaite de toutes les maternités, Marie est complètement relative à Jésus. Et donc elle est totalement dans cet état de dépendance. Non seulement biologiquement, mais dans son cœur. Elle est tellement saisie par la présence de Jésus qu'elle est dans ce silence le plus fort, le plus profond. C'est pour ça que je crois que même qu'il n'y ait plus de place à Bethléem, Ou elle s'en est aperçue, parce que Joseph lui a dit, mais au fond, elle s'y attendait. Et elle le souhaitait, pour être tranquille. Le seul désir de Marie, c'était être tranquille. Vous voyez, Noël, si Noël s'était passé à l'hôtellerie, hein, vous voyez ça, l'hôtellerie, c'est quand même pas l'intimité, hein, c'est le lieu de passage. Même si il y a un père hôtelier qui est silencieux, n'est-ce pas? Mais là, avec Liam, il n'y avait pas de père hôtelier silencieux. C'était la salle commune, c'était la place publique, c'était tout. Et Marie n'avait qu'un seul désir, c'était le silence. Plus de place pour eux à l'hôtellerie. Pour Joseph, ça a dû être très dur. Ça, j'en suis sûr. Il est responsable de Marie. Joseph, ça a dû être vraiment quelque chose de particulièrement rude. Il aurait tellement voulu qu'on reçoive Marie avec amour, avec tout l'amour qu'il avait pour elle. Mais Marie, elle, dans son silence, a vécu ce dernier exode. Il y a l'exode de l'exode. L'exode, c'est quitter Nazareth pour aller à Bethléem. Et le second exode, c'est quitter Bethléem pour aller à la grotte. Et c'est vrai. Il y a quelque chose de très particulier. Je ne sais pas s'ils sont restés une journée. Je ne sais pas, on ne sait pas, on ne sait aucun détail. Sont-ils arrivés le soir même, qui, dans la journée, le matin, c'est possible. On n'en sait rien. Il ne faut pas chercher trop de détails. Il faut essayer de comprendre ce que représente cette attente du cœur de Marie, cette soif du cœur de Marie de vivre de cette présence. Cette présence qui prend possession de toute son âme. Elle est là pour lui. Elle est là uniquement pour lui. Et elle sait que pour Jésus, c'est la chose principale. C'est Marie qui le reçoit. Elle le sait dans son humilité, comme les pauvres peuvent savoir le rôle principal qu'il joue. Marie sait très bien que pour l'enfant Jésus, le contexte extérieur n'a pas beaucoup d'importance. Et elle sait que c'est uniquement le désir de son cœur qui compte, la soif de son cœur, l'intention qu'elle a de le recevoir et d'être là uniquement pour lui. Il faut entrer dans ce silence et cette contemplation de Marie. Marie, sous la conduite de l'Esprit-Saint, sous la conduite du Père, est tout entière attentive à recevoir son Fils bien-aimé, son Dieu. Et elle veut le recevoir avec le plus grand amour, la plus grande simplicité. Elle est seule avec Joseph à le recevoir. Alors c'est toute la contemplation de Noël. Vous voyez, il y a deux moments pour la contemplation chrétienne. Il y a l'Annonciation. L'Annonciation, c'est vraiment le premier moment de la contemplation chrétienne. Et c'est pour ça que l'Évangile, à la fin, reprend le mystère des Annonciations. C'était très net ce matin. Les deux Annonciations, celle qu'on doit beaucoup aimer, parce que être la mère de Samson, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quelque chose, être la mère de Samson. parce que Samson ressemblait beaucoup à sa mère et donc avait une très grande imagination. Très grande imagination. Samson, je crois que c'est le prophète qui a la plus grande imagination. Et c'est le prophète qui annonce le Sacré-Cœur. C'est très curieux, c'est mystérieux, Samson. Samson est un très drôle de personnage. Et alors la mère de Samson, elle est très attachante, la mère de Samson. Elle a une annonciation, la première chose qu'elle fait, c'est de se précipiter auprès de son mari pour lui dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Elle avait besoin d'un directeur de conscience, on voit très bien, alors se précipite auprès de immédiatement pour savoir si c'est vrai ou pas vrai. Et son mari, qui l'aime, mais qui sait qu'elle a une imagination fertile, alors il ne sait pas si c'est juste. Alors il demande à Dieu de recommencer. Oui. Je crois que c'est ce que les évêques devraient demander quand ils ont des apparitions chez eux. Ils devraient demander au Seigneur de recommencer pour eux. Tu vois ? Alors la Sainte Vierge, j'aimerais peut-être beaucoup ça. Ils auraient des petites apparitions chez eux. Ce serait très étonnant, ça. Pour être sûr que c'est bien ça. C'est étonnant parce qu'il a l'autorité. Hein. Et la Vierge obéit à l'autorité. Elle a toujours obéi à l'autorité. Et là, on voit que l'ange de Yahvé obéit à l'autorité. C'est extraordinaire, cette annonciation jumelée. Et l'ange apparaît et redit la même chose. Ils sont tellement heureux qu'ils veulent manger ensemble. Et comme c'est un ange de Dieu, on sait très bien que le repas est très rapide. Et il part dans les flammes des feux. C'était très extraordinaire. C'est beau, du reste. C'est une annonciation qui annonce celle de Marie. Pour nous faire comprendre toute la différence avec Marie. L'enfant Jésus ressemblait beaucoup à sa mère. Vous savez, plus que Samson à sa mère. C'est Saint Albert le Grand qui fait cette constatation. Albert le Grand qui avait un sens de la philosophie de la nature et de la biologie. Saint Albert le Grand dit que l'enfant Jésus ressemblait à sa mère comme pas un enfant ne ressemblait à sa mère. Parce qu'il n'y avait qu'un seul atavisme. Et un atavisme d'une pureté absolue. Et donc Jésus ressemblait à sa mère façon merveilleuse. C'est du reste pour ça qu'elle est la mère des mères. Parce que c'est ce qu'il y a de plus beau pour une mère, c'est que son fils soit comme le prolongement de sa vie. Et là, c'est le prolongement et en même temps une rupture complète puisqu'il est Dieu. C'est très étonnant. Marie, quand elle reçoit la visite de Gabriel, Marie garde le secret dans son cœur. Et ça, je crois qu'on peut l'affirmer. Je sais que certains aujourd'hui disent l'inverse, mais je crois que c'est pas juste, c'est pas vrai. Je ne vois pas du tout Marie courant auprès de Joseph pour dire ce qui s'est passé. Ça l'a prise trop profondément. Et l'ange a demandé le fiat tout de suite. Et c'est elle qui a dit le fiat. Seule, quand elle était seule en face de Dieu, ne demandant conseil à personne, si ce n'est au Saint-Esprit. Elle n'a pas demandé conseil à Joseph. Parce qu'elle était consacrée à Dieu, elle pouvait donc tout donner à Dieu. Elle était fiancée à Joseph. Et ses fiançailles à Joseph, je crois, étaient des fiançailles où Marie avait fait comprendre à Joseph qu'elle appartenait totalement à Dieu. C'est pour ça qu'elle peut dire « Je ne connais point d'homme » alors qu'il dit qu'elle est fiancée. Si on est attentif au texte, il est d'une précision étonnante. Ce que les pères de l'Église ont saisi, ça, c'est cette espèce d'opposition fiancée à Joseph, « Je ne connais point d'homme ». Une fiancée ne dit pas ça d'habitude. Hein. Non, pas du tout. Et Marie le dit. Parce qu'elle est fiancée d'une façon toute spéciale. Elle est totalement consacrée à Dieu et elle rencontre Joseph. Si tel est le bon plaisir de Dieu, elle s'en remet entièrement au bon plaisir de Dieu. Et quand l'ange vient la trouver, Marie reçoit le secret. C'est un secret qui lui est communiqué. C'est le secret du Père, c'est le grand secret du Père. Vous voyez le début de l'Épître aux Hébreux, hein, qui nous montre bien que c'est le grand secret du Père. Le Verbe, le Fils, c'est le grand secret. Et Marie le reçoit comme un secret. Et vous savez bien, le secret engendre le silence. Le silence provient d'un secret. Plus vous portez un secret profond et grand, plus le silence est profond. Quand nous avons de la peine de trouver le silence, c'est parce que nous ne portons pas de secret. Alors nous sommes, vous savez, comme ceux qui reçoivent la parole de Dieu, comme la semence qui tombe sur la route où tout le monde passe. Alors il n'y a pas de secret. Tandis que quand on porte un secret, on entre dans le silence. Et on ne doit pas chercher le silence. Le silence est une conséquence, c'est un fruit. On doit faire que la parole de Dieu devienne pour nous un secret. Et la parole de Dieu devient pour nous un secret quand c'est une parole qui inspire l'amour. Et qui inspire l'amour pour nous. Alors, verbum spirant samorem. Hein, une parole qui inspire l'amour creuse dans notre cœur un abîme. Et il devient un secret. Et il plonge notre cœur dans le silence. Plus la parole est une parole d'amour, plus elle est un secret, plus elle nous plonge dans le silence. Et cette parole qui est la parole par excellence, le mystère du fruit de la contemplation du Père, le mystère du Verbe, le mystère du Fils bien-aimé. Marie reçoit ce secret qui la plonge dans le silence. Et c'est ce silence qui est tout le grand silence de l'Avent. C'est un secret. Et Joseph sera là pour cacher ce secret. La grandeur de Joseph, c'est de cacher ce secret. D'accepter d'être celui qui a comme mission dans l'amour, en aimant Marie, en étant l'époux de Marie, de cacher le secret de Dieu. Il y a un moment donné où Joseph devait recevoir ce secret pour pouvoir le cacher. Et la délicatesse de Dieu, c'est que ce n'est pas Marie qui lui a annoncé, c'est l'ange. Pour que Marie reste dans le silence. Et que Joseph et Marie portent le même secret. On voit d'autant mieux, vous voyez, ce qu'est l'annonciation. Quand on regarde la préfiguration chez la mère de Samson, on voit très bien la différence entre les deux. Et combien Marie, elle, est entrée dans cette contemplation chrétienne, le premier moment de la contemplation chrétienne. C'est Marie qui reçoit le secret du Père. C'est ça la contemplation chrétienne. Quand on veut savoir ce que c'est que la contemplation chrétienne, c'est recevoir le secret du Père. Et le secret du Père, c'est le Verbe devenu chair. C'est le grand secret d'amour. Marie qui reçoit, comme la bonne terre, ce secret du Père, pour que ce secret devienne son secret. Si Marie recevait ce secret du Père comme quelque chose d'étranger à elle, elle n'entrerait pas dans la contemplation. Il faut que sa contemplation ait le même fruit que la contemplation du Père. Et c'est peut-être cela la grandeur de la contemplation chrétienne. de pouvoir regarder celui que le Père contemple. C'est la même contemplation. La contemplation du Père et la contemplation de Marie se terminent à la même réalité, au Verbe de Dieu devenu chair. Cette contemplation chrétienne plonge Marie dans ce silence et dans cette attention tout aimante. Ce premier moment de la contemplation, qui dure tout l'avant, va s'achever dans la contemplation de Noël. La contemplation de Noël a quelque chose de particulier comparativement à cette contemplation de tout le temps de l'avant. C'est qu'il y a une présence visible de celui que Marie contemple. Cette présence visible à l'égard du Verbe devenu chair, à l'égard du Fils du Père qui s'incarne en Marie et par elle. Cette contemplation qui s'achève à Jésus, qui a sa propre autonomie, qui est autre que Marie. Cette contemplation a quelque chose de plus réaliste. Il y a une difficulté nouvelle et il y a un réalisme d'amour qui va plus loin. Marie contemple celui qui est son fils. Elle le sait. Elle le contemple dans la petitesse. Elle le contemple dans la pauvreté. C'est Dieu qui se donne à Marie comme un tout petit enfant se donne à sa mère. C'est le regard de Dieu sur Marie. Dans la contemplation, il faut rejoindre le regard de Dieu sur nous. C'est peut-être même ce qu'il y a de plus grand dans la contemplation. C'est de rejoindre ce regard de Dieu. Vous voyez, la contemplation de la terre annonce le face-à-face. Hein. Et dans le face-à-face, à travers le Verbe de Dieu, nous verrons Dieu. C'est dans le regard de Dieu qu'on regarde Dieu. Et le regard de Dieu à Noël, c'est le regard d'un tout petit enfant à l'égard de sa mère. C'est le regard de Jésus à l'égard de Marie. Ça a peut-être de plus étonnant. Comme mystère d'amour, ce langage de Dieu qui se donne à travers le regard du tout petit enfant. Les gestes, la main, la présence de ce tout petit enfant qui est l'enfant de Marie, qui est par excellence l'enfant de Marie, qui l'est pleinement et totalement, qui se donne de cette manière pour faire comprendre justement tout ce qu'il y a de nouveau dans l'alliance. Tout ce qu'il y a de nouveau dans l'alliance de Jésus avec nous doit se comprendre à partir de l'Annonciation, à partir de Noël, jusqu'à la croix, jusqu'au coup de lance, jusqu'au sépulcre. Et c'est tous les mystères de Jésus par rapport à Marie qui nous font comprendre concrètement ce qu'est cette nouvelle alliance dont nous vivons. Et toujours, la relation de Marie à Jésus, c'est une relation contemplative. C'est une relation d'amour. Et un regard dans l'amour. Et donc un regard contemplatif à l'intérieur de l'amour. Mais c'est chaque fois avec une modalité différente. Et ce sont ces modalités différentes que nous devons regarder attentivement pour mieux comprendre ce qu'est la contemplation chrétienne. Et cette première modalité, c'est la modalité du tout petit enfant à l'égard de sa mère. C'est que Dieu a voulu nous donner ce premier enseignement. C'est le silence du tout petit enfant à l'égard de sa mère. C'est cette présence de la main du tout petit enfant sur la main de sa mère. C'est ce regard. C'est cette simplicité. C'est cela que nous devons demander à Marie de vivre. Elle désire que nous le vivions. Nous le vivions. Elle a permis au petit berger d'en vivre. Et nous devons en vivre. Il faut lui demander. Noël, c'est une fête de contemplation. C'est une fête de famille, mais de famille contemplative. Et c'est une grande contemplation d'amour. Et c'est cette contemplation dont nous devons vivre. Regardez Thomas d'Aquin. Nous avons le droit de passer de l'un à l'autre. Et c'est beau de temps en temps de faire comme ça le passage de Marie à Thomas d'Aquin. Ça rafraîchit le théologien. Et en même temps, ça fait comprendre aussi que le théologien, c'est pour comprendre Marie. Toute notre théologie scientifique, c'est pour comprendre Marie. Marie, le cœur de Jésus. Et le cœur du Père. Saint Thomas pose la question au théologien, et c'est beau, relisez ça, c'est une très belle lecture à faire. Une lecture de théologien qui veut contempler. Or, en tant que philosophe et croyant, vous êtes des théologiens. Chaque fois, vous devenez un tout petit peu plus intelligent et un peu plus croyant, vous devenez un meilleur théologien. Heureusement que la foi suffit pour contempler, et le théologien qui doit communiquer, alors il a besoin de cette analyse philosophique. Saint Thomas pose la question, pourquoi l'incarnation ? Convenance à l'incarnation. Est-ce que c'est pas fou? Est-ce que c'est pas contraire complètement à la sagesse de Dieu? Vous savez bien cette réflexion de Merleau-Ponty, un philosophe, il est mort maintenant, mais quand même, il est proche. Merleau-Ponty, qui avait été croyant quand il était anormal, était président des Talents. Donc, il était catholique, croyant, pratiquant. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il y a eu un drame, sûrement. Et alors, il disait, le mystère de l'incarnation, non. Parce que ça ne répond plus au caractère propre de Dieu. Présenter Dieu dans le temps, ce n'est plus Dieu. C'est faire une terrible confusion entre le temps et l'éternité. Présenter Dieu dans la contingence d'un enfant et d'un homme, ce n'est plus Dieu. Parce que Dieu, il ne peut être que l'acte pur. Il ne peut être que nécessaire. Il oppose, et on voit très bien comment ça peut scandaliser une intelligence de philosophe. Qu'aurait dit Aristote, qui écrit le livre Lambda des métaphysiques, en face du mystère de Saint-Luc. C'est vrai, de temps en temps, on doit se poser la question. Qu'aurait dit Aristote en face d'un Dieu, en face de Dieu, l'unique Dieu, il n'y en a pas 36, il y a l'unique Dieu, il ne peut y en avoir qu'un. De voir que le Dieu unique, acte pur, qui attire tout l'univers à lui, dont tout l'univers dépend, qui se fait un tout petit enfant parmi tous les hommes. C'est de la folie. C'est de la folie. Une folie très douce, mais une folie. C'est incompréhensible. C'est brouiller toutes les cartes. Alors qu'il faut bien distinguer la créature et le créateur. Il faut bien distinguer l'être contingent et l'être nécessaire. C'est brouiller toutes les cartes. Saint Thomas ne donne qu'une seule raison. Parce qu'au fond, Saint Thomas souligne exactement ce que Merleau-Ponty dit. C'est ça l'intelligence de Saint Thomas. Il a saisi très très bien l'objection que quelqu'un d'intelligent pouvait se faire en face du mystère de l'incarnation. Une seule raison, pour montrer la convenance, le bien. Il se communique. Or Dieu, c'est le bien souverain. Dieu seul est bon. Et donc, il est normal qu'il se communique le plus qu'il peut. Or, il peut se communiquer jusqu'au mystère de l'incarnation. Et ça, c'est l'audace merveilleuse du théologien contemplatif. Et voyez bien, c'est la bonté. Merleau-Ponty raisonnait sur l'être. Si je raisonne sur l'être, l'être nécessaire, l'être acte pur, alors impossible. Si je comprends que Dieu est bon, et souverainement bon, alors à ce moment-là, je dirais, tous les obstacles tombent. La bonté demande de se communiquer le plus qu'elle peut. Et c'est cette vision-là qui commande tout le mystère de l'incarnation. C'est la bonté de Dieu. Et l'enfant Jésus manifeste la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Marie vivait de la bonté de Dieu en portant son tout petit enfant. Et à Noël, Marie contemple la bonté de Dieu. Dieu qui va jusque-là dans sa communication. C'est merveilleux, ça. Contempler la bonté de Dieu à travers le tout petit enfant Jésus. Parce que tout est de l'ordre de la bonté. C'est ça. C'est la pauvreté, la bonté. Mais la pauvreté est là pour que la bonté aille plus loin, pour que la bonté puisse se communiquer plus pleinement. Puis saint Thomas précise encore, l'incarnation, c'est pour que l'homme découvre mieux sa dignité. Ah, c'est très grand. C'est pour que l'homme ait une foi plus certaine. C'est pour que l'homme ait une espérance, un élan d'espérance plus grand. C'est pour que l'homme ait une charité plus enflammée. C'est pour que l'homme puisse découvrir la dignité de l'homme. Et pour que l'homme comprenne qu'il est appelé à une plénitude de béatitude. C'est tout ce côté positif. Et saint Thomas emploie même, voyez, cette expression qui, je crois qu'il n'emploie pas autre part. je n'oserais pas le dire, mais je la trouve très belle. Il dit le mystère de l'incarnation, si on essaie de comprendre, c'est pour la promotion de l'homme. Et c'est très actuel. C'est pour la promotion de l'homme. C'est pour que l'homme puisse aller jusqu'au bout de tout ce qu'il porte en lui, en nostalgie, en désir. C'est pour la promotion de l'homme. Et en même temps, c'est pour que l'homme comprenne mieux le mal. Pour qu'il n'ait plus peur de Satan. Pour qu'il n'ait plus peur de Satan. Le mystère de l'incarnation, c'est pour qu'on n'ait plus peur de Satan. Avoir une trop grande peur du démon, c'est encore faire un hommage au démon. Et ça, c'est vrai. Les gens qui ont trop peur du démon font une hommage. Mais quand même, vous avez la grâce en vous, et donc vous êtes bien plus fort que le démon. Et c'est ce que rappelle saint Thomas. Donc avoir trop peur du démon, mais oui, c'est pas bien, c'est pas chrétien. Que les païens aient peur du démon, c'est normal. Et que le chrétien ait peur, non. Il n'a pas à avoir peur. Parce que Jésus a vaincu le démon. Et nous sommes liés à lui. Et le démon est vaincu par le mystère de l'incarnation. Par là, Jésus rappelle la dignité de l'homme. Si l'homme est plus petit que l'ange, si l'homme est plus fragile dans son intelligence que le démon, s'il a une intelligence moins pénétrante, il a un cœur d'une noblesse bien plus grande. Parce que c'est la noblesse du cœur de l'homme-Dieu qui est en nous. La noblesse du cœur de Jésus. Alors je trouve ça très, très beau pour nous aider à mieux pénétrer, aller plus loin dans ce mystère même de l'incarnation. Et comprendre que dans ce mystère d'incarnation, nous avons... Nous devons comprendre, nous avons Dieu qui se met à notre portée. Dieu qui vient vers nous. Dieu qui se donne à nous et qui réclame de nous de le recevoir. C'est la bonté de Dieu qui vient vers nous. Et c'est Dieu qui veut du dedans nous fortifier et nous faire comprendre notre dignité. Bien demander à la Vierge Marie, en passant par saint Thomas, demander à la Vierge Marie de vivre ce qu'elle a vécu de cette bonté de Dieu à travers l'enfant Jésus.
Oh,
Saint-Esprit, par l'intercession du cœur douloureux immaculé de Marie, vous bénisse et vous garde à jamais.
Amen.
Je redis que la communauté Saint-Jean reste ici.